j'ai le grand plaisir, comme ces dernières années, d'animer la table ronde de clôture de César. Et nous allons accueillir pour cela tout d'abord l'amiral Coustillère, qui est directeur général du numérique des Génum au ministère des Armées. Amiral, je vous en prie, si vous voulez bien monter sur scène. Le général Didier Tisser, qui représente le Com Cyber, qui est adjoint du Com Cyber. Frédéric Valette, chargé de mission cyber à la DGA. Jérôme Lemaire, qui est chargé de mission intelligence artificielle et big data, également à la DGA. Et enfin, je dirais notre invité d'honneur ou notre invité spécial, Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI. Je t'en prie, Guillaume. Prends place. Et je vais rejoindre aussi la table ronde. Oh, tu peux te mettre là si tu veux. Oui, oui. Amiral, je vais commencer par vous, parce que je juge utile, peut-être une dernière fois, mais c'est comme important pour notre public, de vous demander ce qu'est cette nouvelle direction, la DGNUM, qui est née de l'ex-DGSIC. Quelles sont ses missions? Et puis surtout aussi, peut-être derrière, plus intéressant, quels sont les enjeux de la transformation numérique pour le ministère?
D'accord. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. D'abord, je suis entre mes deux anciens complices avec qui on travaille depuis 2009. Et bon, je suis ravi d'être là. Deuxième chose, oui, la DGNUM n'est pas la DGSIC. Très, très rapidement, la Direction Générale des Numériques correspond au modèle d'une DSI Group dans un ensemble qu'on peut retrouver dans l'ensemble de grandes sociétés. On s'est inspiré principalement de ce que faisait au Crédit Agricole. Une DSI Group, mais une DSI Group un peu particulière. En tant que DSI Group, elle a un centre de pouvoir de reprendre en main la gouvernance du système d'information du ministère de la Défense en situant son action au niveau du COMEX du ministère. C'est pour ça que le DGNUM est rattaché directement au ministre et travaille au profit des trois grands subordonnés que sont le CEMA, le DGMA et le SGA. Donc c'est bien là son niveau de positionnement. Par contre, elle a un pouvoir de régulation aujourd'hui puisqu'elle a des responsabilités budgétaires de contrôle. Elle a un pouvoir de vérification et de certification conforme de l'ensemble des projets du ministère supérieur à 5 millions d'euros, un peu le processus de la DINZIC recorté au niveau du ministère. Donc un certain nombre de choses où elle a un certain nombre de missions à la fois de pour garantir à la ministre la cohérence d'ensemble du système d'information du ministère des Armées. Puis les responsabilités en tant que pilote métier et ainsi de suite. Dans les métiers nouveaux, c'est qu'elle est chargée d'orchestrer la transformation numérique du ministère des Armées. Orchestrer, ça veut dire qu'elle ne porte pas de mission en propre, puisque les missions du ministère sont portées par les métiers. Et les métiers sont bien représentés par le CEMA, le DGA et le SGA. Par contre, elle a à sa charge la supervision et la conduite de l'ensemble des chantiers, ce qu'on appelle les chantiers du socle, les 6 grands axes, qui permettent de mettre en place un cadre permettant aux autres d'avancer assez vite. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, première chose, réformer trop profondément la gouvernance du socle IT du ministère pour être capable d'offrir aux métiers des capacités d'hébergement, de big data, des capacités de contractualisation, des cadres qui permettent d'avoir des projets qui soient de plus en plus innovants et surtout de plus en plus rapides. Donc typiquement, c'est des méthodologies de conduite de projets agiles en méthode innovante. On est en train de le tester et ceux qui sont déjà émis le savent très bien. On le teste aujourd'hui à travers des équipes de refonte de réseau qui s'appelle la mission Intradef et c'est confié à Bruno Maresco et à ses équipes. Cette réorganisation va assez loin puisque pour l'ensemble de la refonte de notre socle IT, la ministre a décidé, on était avec elle pas plus loin que lundi matin, la mise en place d'un service numérique du socle qui sera une émanation de l'unité de management de SIO de la DGA, combinée avec des équipes de la DIRISI, le tout dans un service mixte et qui va devoir conduire la migration de notre socle. Notre socle, c'est le poste de travail, c'est les réseaux, des programmes comme Descartes vont être intégrés dans cette structure, l'hébergement, le programme ACA, voilà. Et c'est quelque chose qui est en place à partir du 1er janvier, et celui qui portera la mission, c'est Bruno Maresco. au niveau au-dessus, bien sûr, vous avez l'IA. Et l'IA pour le ministère est confiée à Jérôme, mais l'IA ne marchera que si derrière on sait qu'on est capable de la poser sur l'infrastructure du ministère. Troisième pan, qui est quelque chose qui est totalement nouveau aussi, c'est que je suis aujourd'hui, quoi, ma direction est aujourd'hui administrateur ministériel des données du ministère des Armées. Donc avec une mission d'ouverture. D'ailleurs, ce qui est drôle, je viens de la cyber où on devait défendre les données. Maintenant, je dois les ouvrir pour les valoriser, qui permet d'avoir un pied dans les deux. Mais on n'ouvre pas les données pour partout qu'on ouvre les données, là où on a intérêt donc, typiquement le MCO, typiquement probablement avec des ensembles de partenaires sur les logs. Et là, c'est dans ce domaine, l'innovation cyber. Je reviens là-dessus. Vous avez un schéma directeur de la transformation numérique du ministère dans lequel le deuxième priorité après la numérisation, l'amélioration des actes, la maîtrise de l'information sur les théâtres de combat, c'est passer à l'échelle, industrialiser les capacités de cyberdéfense du ministère. Donc là, la DGNU va être au service du Com Cyber et de la preuve pour faire en sorte qu'il avance assez vite. Derrière chef d'orchestre, il y a une notion. Bien sûr, être au service, mais le chef d'orchestre, il a une baguette. Donc mon métier aussi, c'est de rendre compte au ministre de ceux qui avancent assez vite dans le ministère, de ceux qui n'avancent pas assez vite. Donc voilà à peu près, très rapidement, la mission de cette nouvelle direction générale du numérique, qui se renforce, puisqu'on va être 60, et qui va installer, à partir de début 2019, une antenne sur le site déjà émis de Bru, en très grande proximité, avec, bien sûr, le service du socle numérique, qui va s'installer en grande partie sur Bru, et bien sûr, toutes les affaires d'Artemis. Tout ça, c'est la même histoire que l'on prend par des bouts un petit peu différents. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'est bien ce grand mouvement qui est en marche, avec des choses extrêmement concrètes, puisque la première manifestation, c'est le 1er janvier 2019, ce service créé au sein de la DGA, et qui doit conduire des méthodes agiles assez innovantes.
Merci, Amiral. Mon général, par symétrie, en quelque sorte, quels sont les principaux enjeux, alors je vais dire pour simplifier, de la transformation numérique opérationnelle, tels qu'ils sont vus en particulier par vous côté ComCyber?
Alors, vous l'avez dit, justement, la vision opérationnelle, elle est assez spécifique, parce qu'il faut qu'on soit opératoire. Et aujourd'hui, les opérations, elles existent dès maintenant. Il y a de nombreuses cyberattaques qui existent, hein, quelles que soient les motivations de ces cyberattaques. Donc, il faut être capable de réagir. Et donc, nous, notre leitmotiv, c'est ça, c'est capter l'innovation, c'est avoir des processus agiles pour que cette innovation, qui est aujourd'hui nécessaire et qui est directement liée, justement, au cyberespace, qu'on puisse capter cette innovation pour la traduire en système, en moyens, pour pouvoir, justement, planifier, conduire nos opérations et pour pouvoir être suffisamment au rendez-vous, justement, pour défendre nos réseaux. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est qu'on parle souvent de la détection et on parle souvent de la réaction, de la remédiation, mais en fait, le tempo des opérations, il y a vraiment quatre étapes. Il y a cette anticipation, la détection, la caractérisation, et puis après, la réaction, la remédiation. Et justement, on va certainement développer ces points-là, l'intelligence artificielle, elle peut participer à pratiquement chacune de ces étapes. Alors, de manière différente, il y en a qui sont déjà matures, on parlait justement dans la partie détection, c'est relativement mature. Anticipation, là c'est pareil, il y a énormément de choses, beaucoup de travail à faire. Et après, pareil aussi, en matière de remédiation, de caractérisation, il y a encore énormément de choses à faire. Donc notre vision, en effet, au niveau du ComCyber, elle est essentiellement opérationnelle. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est de l'agilité, c'est de l'opératoire. Donc ça oriente la manière dont on voit justement le domaine, le développement capacitaire et l'utilisation de l'IA.
Merci, mon général. Alors justement, pour approfondir tous ces thèmes que vous avez évoqués, et puis pour en venir au cœur technique de notre conférence César cette année liée à la cyber, Jérôme, j'ai vu passer récemment une note de la ministre des Armées relative à une task force sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une conséquence directe du rapport Villani? Enfin, est-ce qu'il y a un rapport d'ailleurs avec le rapport Villani? C'est le cas de le dire. C'est quoi cette task force sur l'IA?
Bien, alors effectivement, il y a forcément un lien, même s'il n'est pas totalement direct avec la mission Villani, puisque la mission Villani, à partir du moment où la France se saisit globalement du sujet intelligence artificielle, c'est pour en faire quelque chose, et dans les quatre grands thèmes, puisqu'effectivement, il y a une approche que moi je considère assez courageuse, à savoir de dire on ne peut pas faire de manière développée et investir dans tous les secteurs, et donc on va choisir quatre sujets où effectivement la France elle a des actes des acteurs qui sont bons aussi bien sur les transports, la santé, tout ce qui est lié à l'écologie et à la transition énergétique, et puis la défense et sécurité. Bon. Du côté du ministère, il faut remonter un petit peu plus loin. Frédéric est à côté de moi, il a connu quand même la genèse en 2016 et fin 2016 où il y a une prise de conscience de la direction de la DGA qu'il s'est passé quelque chose en intelligence artificielle depuis quelques années. Il y en a certains qui datent en 2012 avec le fameux concours ImageNet et donc effectivement il y a un petit groupe qui commence à travailler et à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. C'est très important parce qu'en fait aujourd'hui des actions concrètes que l'on voit comme Artemis, notre plateforme de big data pour l'intelligence artificielle, le contrat MMT, Man Machine Teaming, qui va permettre d'explorer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'aviation de combat. C'est à ce moment-là que la genèse se fait et qu'on lance les démarches contractuelles pour les mettre en œuvre par la suite. Voilà. À l'été 2017, à la fois la décision est prise à la DGA de lancer un projet autour de l'intelligence artificielle pour fédérer un peu les travaux, les initiatives, et c'est à ce moment-là effectivement qu'on décide de me le confier. À peu près à la même époque, les travaux sur l'ambition numérique du ministère donc, sont mis en place par la DGNUM et l'intelligence artificielle est mise en exergue comme étant un axe thématique important. Voilà. Donc pendant la première année, il y a un travail pour défricher quelles sont les applications potentielles, quels sont les sujets où on voit qu'il y a une vraie potentialité et où il faut investir en termes d'application et donc gré nous ce qu'on appelle les agrégats d'études amont où on réserve de l'argent pour un certain nombre de travaux et puis on explore un certain nombre de sujets autour de la donnée, la souveraineté, comment on va se partager le travail avec l'industrie, etc. Ça permet quand même à la ministre d'intervenir au mois de mars pour indiquer que nous allons faire des efforts substantiels puisque nos dépenses en intelligence artificielle étaient à peu près autour d'une dizaine de millions d'euros en 2017 et qu'elle annonce que nous allons monter à une centaine de millions d'euros par an en 2022. Une soixantaine pour la R&D et une quarantaine sur les programmes. Et puis elle annonce également qu'il y aura un recrutement d'une cinquantaine d'experts en intelligence artificielle d'ici 2022. Et puis là, cet automne, je dirais après cette première phase pour défricher, explorer et poser un certain nombre de jalons, il y a vraiment l'idée de dire on va mettre en place une stratégie globale, intelligence artificielle, en disant quelles sont nos ambitions en termes de capacité. Quel est le plan qu'on en décline de façon assez précise sur les programmes et sur les études amont, notre stratégie industrielle et recherche, notre approche en termes de ressources humaines. Il y a eu un premier travail à la DGA. Dans les armées, il faut compléter ce travail pour bien regarder effectivement où est-ce qu'il y a besoin d'avoir des data scientists dans les armées, comment on évalue le volume aussi qui est nécessaire. Et puis des questions autour la normalisation, le droit, l'éthique qui viennent forcément. Donc vraiment avec l'idée, on va présenter. Et donc cette stratégie globale, la ministre a demandé qu'elle soit prête pour le mois de mars 2019. Voilà.
Merci Jérôme. Amiral, je reviens à vous parce que j'ai vu aussi passer une autre note sur l'informatique en nuage. Donc c'est un sujet d'ailleurs qui dépasse largement le seul ministère des armées puisqu'il y a aussi des groupes de travail interministériels sur le sujet. Donc c'est quoi là aussi, même question, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le but de cette task force du ministère sur le cloud?
Non, mais Jérôme l'a abordé. Donc, il y a eu une première année où on a sécurisé, en gros, le ministère 2018-2020 pour savoir à peu près où on va. Et on prépare les cibles 2025. Donc, aujourd'hui, le ministre a signé à peu près en même temps trois mandats qui sont complémentaires. Un mandat sur l'éthique, un mandat sur l'IA et le dernier mandat qui est confié à la Direction générale du numérique qui est de regarder comment... derrière ça, c'est repenser nos réseaux pour savoir comment on traite de données et derrière la motion de données, on tombe très rapidement sur l'hébergement et comment on fait une feuille de route comment on monte progressivement vers du vrai cloud, qui bon, aujourd'hui on fait de l'hébergement, on ne fait pas vraiment du cloud, comment on monte vers du vrai cloud, et tout en étant conforme à la stratégie et la doctrine de l'État que le Premier ministre vient de promulguer. Donc pour nous, ça va principalement poser des problèmes, des difficultés de souveraineté. Je ne dis pas des difficultés, des questions autour de la souveraineté numérique, des questions, on va s'intéresser non pas au confidentiel défense, on s'en fout, ça c'est de l'hébergement chez nous, ça, mais plutôt à tout ce qui est l'information sensible, entre ce qui va devoir rester probablement chez nous parce que c'est très proche de la résidence des opérations et ceux où on va aller chercher de la valeur, mais dans une structure qu'on appelle en jargon de l'hébergement dédié, dans lequel il va falloir qu'on fasse recours, qu'on ait recours à des prestataires ou des grands, non, plutôt à des partenaires de confiance pour aller partager avec eux, leur confier une partie de données. Donc c'est bien ça. Et pour donc à la fois, la question c'est comment garder notre souveraineté, nos savoir-faire, tout en s'appuyant sur ceux qui maîtrisent et qui sont dans le rythme technologique le plus rapide possible, qui sont des grands partenaires. Voilà, donc ça va être travaillé autour de la donnée, autour de l'algorithme, parce que de la donnée et de l'algorithme, c'est deux zones de souveraineté. Et derrière le mot souveraineté, bien sûr, il y a sécurité, qui est une partie du jeu. Et puis dernière, il y a confiance. Confiance, ça repose sur de l'éthique. Quand on parle de partenaire, on est dans un engagement de longue durée. Donc, et on est sur une communauté de destin, donc vis-à-vis de l'écosystème des grands industriels du monde numérique, quels sont ceux qui ont envie de partir dans un engagement de longue durée avec le ministère des Armées, tout en étant au top du top de la technologie. Voilà, donc c'est des questionnements de ce type-là, qui sont des questionnements beaucoup plus d'ordre politique et stratégique que des questionnements purement techniques. Bon, derrière, quand vous déclinez, vous trouvez le logiciel libre, vous trouvez les mouvements cloud et libre, vous trouvez toute une série de choses. Mais c'est vraiment repartir du haut pour savoir quel est notre modèle. Et puis derrière, quand on le décline, je vous ai parlé du socle tout à l'heure, vous trouvez, bien sûr, comment derrière ça s'impacte sur le socle IT du ministère. Donc vous retrouvez les équipes de Benoît Maresco. Et c'est pour ça que tout est tout. C'est pour ça qu'on va mettre le cœur de tout ça à DGAMI. Parce qu'on ne peut pas parler d'Artemis, de conception, de numérique à l'intérieur des systèmes de combat, sans derrière d'avoir immédiatement une cohérence avec le SOC IT du ministère, parce que les zones d'hébergement du ministère, le cloud, derrière c'est le cloud de combat quand même. Voilà, donc il y a toute cette cohérence. Le numérique est partout, il faut que la DGA aussi l'apprivoise pour être capable de le mettre au cœur du système de combat. Donc ça, c'est la mission ici. Donc c'est bien ici où on va créer un espèce de creuset sur les savoir-faire numérique sensible du ministère avec des tas d'initiatives que peut-être Frédéric abordera aussi. Et dans le cœur du cœur, on a une compétence qui est la capacité cyber. Donc là, je pense qu'actuellement, on va assister à un élargissement de l'appréhension de la problématique cyber en décloisonnant le cœur du métier, c'est cyber, puis on s'éloigne de l'intelligence artificielle, puis c'est les savoir-faire et c'est la supériorité opérationnelle des armées qui se décline. Et tout ça, on ne le fera pas seul, puis il faut décloisonner, il faut qu'on le fasse en s'appuyant aux meilleurs prestataires, aux meilleurs gens qui maîtrisent la technique. Et puis ceux qui maîtrisent la technique, aujourd'hui les meilleurs du domaine de l'hébergement, c'est AWS, Amazon et Google, et Microsoft. Il est hors de question d'aller confier nos algorithmes à des... Voilà. Donc la notion de souveraineté numérique revient au goût du jour de façon... arrive au goût du jour de façon extrêmement forte. Et c'est toute cette notion qu'il faut être capable de débattre ensemble. Parce qu'on ne comprend bien la souveraineté numérique que si on est capable de décrypter tous les mécanismes techniques qui sont derrière. D'où cette espèce de rapprochement du stratégique et de l'expertise très, très, très pointue que nous avons ici à DGAMI. Voilà.
Merci, Amiral. Guillaume, donc en tant que grand témoin, sur tous ces sujets qui sont donc très interministériels, très souverains, je dirais la cybersécurité de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle appliquée à la cyber, le cloud, et ainsi de suite, quelle est ta vision d'ensemble, quelle est la vision de ton point de vue, directeur général de l'ANSSI ?
Il y a des questions relativement simples, en fait, où on est dans notre domaine de confort. Tu mentionnais, par exemple... la cybersécurité de l'intelligence artificielle. Là, tout de suite, on est à l'aise, parce qu'on dit, voilà, on a une expérience en sécurité, on a cet esprit un peu pervers qui voit le mal partout, qui va permettre notamment d'apporter ou de traiter ce sujet sécurité, là où les experts naturels de l'intelligence artificielle sont peut-être parfois considérés même peut-être comme naïfs, mais simplement parce qu'ils sont sur d'autres expertises. Donc comment est-ce qu'on va faire pour éviter l'empoisonnement d'intelligence artificielle, des choses comme ça ? Je ne reviens pas sur ce sujet, ça a sûrement dû être abordé pendant ces journées. C'est notre domaine de confort. Là où c'est beaucoup plus complexe, et je pense que les différentes interventions ont été intéressantes et le traduisent complètement, c'est que le sujet numérique, en général, numérique au sens, certes, cybersécurité, mais également le big data, le traitement des données, l'intelligence artificielle, tout ce qui gravite autour de ça, ça percute notre manière de travailler, ça percute les frontières que l'on a mis traditionnellement. Et si on cherche à faire fonctionner tout ça avec les méthodes habituelles, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas les bonnes méthodes, ce n'est pas la bonne agilité, il y a plein de bonnes raisons à ça. On a commencé à connaître ça il y a maintenant presque 10 ans, quand le cyber est arrivé de manière assez massive. Il y a maintenant prescription. Moi, quand je suis arrivé à la DGA à ce moment-là, la consigne du délégué de l'époque, que beaucoup ont connu, c'était ta mission, c'est de développer le cyber malgré la DGA. Je peux le dire maintenant, je ne l'avais pas dit à l'époque, je ne m'en suis pas vanté. Je n'avais pas perçu sur le coup tout ce que ça voulait dire. Malgré la DGA, ça veut dire en gros que la DGA sait très bien faire des tas de choses, les armées en général, tout notre écosystème, mais il faut être capable d'être innovant et de travailler différemment sur des questions comme ça. Et donc les grands enjeux, à mon avis, qui sont des enjeux au niveau du ministère des Armées, mais plus globalement, comme tu le disais, dans l'ensemble des administrations, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter la création de silos ? Comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait des gens qui fassent de l'intelligence artificielle à côté des gens qui font du cyber, à côté des gens qui font du big data ? Parce que si on recrée comme ça des boîtes où on range les gens de manière bien propre et où on évite surtout qu'ils se parlent, évidemment, ça ne marchera pas. Comment est-ce qu'on fait pour assumer pleinement la dualité civile-militaire ? Moi, je m'y perds. Dans les applications, évidemment, quand on va faire de l'aviation de combat, on sait très bien qu'on est dans le militaire, mais fondamentalement, on va chercher à y attirer plein de choses qui sont issues du civil, et inversement. On est vraiment, c'est une évidence, mais on est vraiment dans le sujet dual par excellence. Comment est-ce qu'on fait pour assumer ça ? Tout le monde est d'accord pour le dire. Personne ne me dit jamais, non, c'est pas vrai, c'est pas dual, on va faire du numérique militaire et du numérique civil. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait pour réellement le mettre en œuvre ? Ça, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour casser certains modes de fonctionnement entre le public et le privé. Les grands programmes, ça fait ses preuves pour faire des tas de choses. Pour faire du numérique, j'ai de grands doutes. Sincèrement, il faut être capable de travailler différemment. Donc c'est vraiment tout ça, les questions. Je fais le grand témoin, là, donc je pose des questions puisque je n'apporte des réponses, mais parce que c'est déjà pas mal, à mon avis, de voir ça et de le partager. C'est inconfortable. Ça nous sort de notre zone de confort parce qu'il faut être capable de travailler de manière différente. Et puis après, ça se mélange parce qu'il faut également être capable de sortir de cet écosystème dit de confiance. Je dis public-privé, mais il faut être capable évidemment d'aller au-delà. Je reprends l'exemple d'Arnaud. Comment est-ce qu'on accepte d'aller dans des clouds qui sont des clouds dans lesquels on n'a pas confiance et pourtant on en a probablement besoin. Et il y a probablement des tas de cas où c'est le bon. On doit pouvoir se servir de ce genre de choses et trouver un bon équilibre entre des questions de sécurité, des questions d'efficacité, des questions économiques. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui est passionnant en demeurant et qui nous bouleverse aujourd'hui. Un dernier point, le ministère des Armées a une spécificité, puisque je vois l'ensemble des administrations. Une fois que les décisions sont prises, une fois que les choses sont alignées, il y a de la ressource derrière. Alors, faut pas dire ça en ce moment. Hein. Je ne suis pas en train de sous-entendre que le MINARM est trop riche, mais fondamentalement, il y a de la ressource. Il y a une capacité humaine, il y a moyen de mettre de l'argent, il y a moyen de mettre des vrais experts sur les sujets, ce que ne peuvent pas faire beaucoup, beaucoup, la grande majorité des administrations. Et la grande force est là où, quelque part, vous devez être vraiment des leaders, des pilotes, et entraîner le reste, c'est parce que vous êtes capable de mettre cette ressource, de l'organiser, et puis avec des pépites comme des GMI, qui sont capables d'être des pôles d'attraction, de stabilité pour développer sur le long terme, à échelle numérique, hein, quelques années, voire plus, ces questions qui sont vraiment des questions d'innovation, et là, au bon sens du terme.
Amiral, vous souhaitiez réagir ?
Oui, moi, je veux réagir sur ce que dit Guillaume, parce que je suis à 150% sur la même longueur d'onde que toi. Et je voudrais juste donner quelques précisions. Je vous ai parlé tout à l'heure du service numérique du SOC. Le service numérique du SOC, c'est le premier dans le ministère des Armées qui essaye en ce moment l'agilité à l'échelle de la méthode SEF. Donc, voilà. Donc ça, aujourd'hui, je veux dire, ce qui est intéressant, tu as dit que quand c'est important le ministère, on a des moyens très importants. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, on est aligné. Aujourd'hui, moi, je veux dire, comme élément d'espoir, code positif, et pas d'espoir, de vraiment très positif, c'est une belle aventure dans laquelle on est tout engagé. Nous sommes tous aujourd'hui parfaitement alignés. Ça date du 1er septembre, donc c'est pas récent, c'était un an de travail. Totalement alignés, les trois grands subordonnés, et nous avons une ministre qui porte le sujet numérique et qui en a fait, depuis son arrivée, un sujet particulièrement important. Comprenez-moi, je me suis présenté déjà 6 fois devant elle pour lui présenter une transformation du chantier modernisation numérique en cohérence totale avec la DGA, qu'elle soit cyber, etc. Les travaux de Jérôme sont complètement dans cette dynamique. Les travaux de l'agence d'innovation d'Emmanuel Kiva qui arrive sont totalement dans cette dynamique. Donc l'alignement innovation ministre, innovation numérique, il est en place. Donc maintenant, il est en place à l'échelon central. Il reste à le décliner que dans toutes les équipes ensuite qui font du numérique, cette espèce de dynamique se ressent. Et c'est quand tu dis la pépite, elle est sur DGAMI. Oui, c'est pour ça qu'on va renforcer le DGAMI. Le service numérique du SOC, c'est 300 personnes à terme. C'est pas rien, c'est 300 personnes, 400 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires annuel. Tu as donné des chiffres, comme dans la cyber. Ceux qui ne croyaient pas dans les années 2009-2010, qui croyait que ce truc-là était un phénomène de mode, vous voyez le résultat aujourd'hui, que c'est 600 emplois en régie sur place, et c'est plus de la maîtrise d'ouvrage éthérée, c'est bien de la maîtrise d'œuvre de niveau 1, c'est bien de la réalisation, tous ceux qui sont là-dedans savent de quoi je parle. Je pense que pour l'IA, pour un certain nombre de domaines du numérique, et pour reprendre la souveraineté sur nos données, c'est bien ce que l'on fait. Et tout en étant parfaitement ouvert avec l'écosystème, d'où des trucs comme le pôle d'excellence Bretagne, d'où un certain nombre d'initiatives. C'est une grande aventure dans laquelle on est tous engagés, qui est passionnante, mais qui vient vraiment perturber nos modes de fonctionnement actuels et perturber aussi des façons de travailler. Je sais, quand je suis intervenu à la convention de la DGA, des DGAMI, j'ai choqué un certain nombre de gens. Oui, il faut apprendre à faire les mêmes choses, mais plus rapidement, de façon légèrement différente. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'est bien là-dedans qu'on est engagé. Et je peux vous assurer qu'on a un ministre qui nous fait avancer. Et le mot décloisonnement, tout à l'heure, est quelque chose de très important.
Frédéric, j'en viens à toi justement sur les initiatives, parce que l'une des remarques récurrentes qui vient lorsqu'on parle notamment d'intelligence artificielle, c'est le fait que des chefs d'entreprise ou des chercheurs nous disent ah oui, mais on ne dispose pas de données, de données massives du ministère pour pouvoir travailler, pour pouvoir entraîner nos agents. Est-ce que dans ta feuille de route, dans vos feuilles de route, vous avez des projets de ce type-là? Je pense notamment évidemment à des data lakes ou des choses comme ça.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet du data lake, je voudrais dire que je partage totalement ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. La DGA a quand même un petit peu évolué depuis Guillaume l'a quitté. Il a pris en compte cette problématique-là. Je pense qu'avec avec Jérôme, il y a tout un tas de travaux qui ont été lancés sur la mise en place de marchés agiles qui sont précurseurs des futurs marchés et qui devraient nous permettre quand même d'intervenir beaucoup plus efficacement au profit des forces. Si on regarde le diagnostic sur la cyber, aujourd'hui on a 2 points d'attention. Le premier, c'est que les opérationnels croulent sous les données, sous le travail, sous les systèmes à homologuer, sous les systèmes à superviser. Et on s'aperçoit qu'avec uniquement un renfort humain, on n'arrivera pas à tenir ce travail-là. D'où l'intérêt pour nous de pousser fortement sur tout ce qui est automatisation, tout ce qui est intelligence artificielle. Les travaux qui ont été présentés pendant ces 3 jours montrent bien que sans remplacer l'opérationnel par une intelligence artificielle, mais simplement en l'aidant, en lui indiquant où regarder, quoi traiter en priorité, on peut assez facilement améliorer son travail, le rendre beaucoup plus efficace et lui permettre de gérer des attaques complexes. Donc ça, c'est le premier point qui nous pousse à travailler sur l'intelligence artificielle et qui nous a poussé quelque part à proposer ce sujet à César sur l'intelligence artificielle et cyber. Deuxième point, ça a été souligné par Guillaume et l'amiral Coustillère, on a besoin de raccourcir le délai entre la preuve de concept, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez vu il y a aussi des preuves de concept, des expérimentations, parfois directement avec les opérationnels, hein. Je pense aux équipes de ce matin où il y a eu un travail entre le Calide et les équipes de DGAMI sur des données réelles, sur ces choses-là. Mais une fois qu'on a fait l'expérimentation, on peine à poursuivre le travail, à industrialiser ce travail-là, à en faire un produit qui puisse quelque part adresser le marché français, voire le marché mondial. Et ce blocage-là, on ne pourra pas le faire nous-mêmes, c'est-à-dire que même si on est plus nombreux, on fait plus de maîtrise d'œuvre, on ne pourra pas faire tous les produits à destination du com cyber, et il faut qu'on soit capable de proposer un environnement, un écosystème qui permette à des PME de faire ce type de produit-là et puis de prendre leur destin en main. Et donc c'est vrai qu'on a en réflexion la mise en place d'un data lake sur les données cyber. Donc c'est quelque chose qu'on espère mettre en place courant 2019. Alors c'est pas un data lake sur des données non sensibles, hein, parce que il y a quand même tout un tas de données sensibles, hein, qui permettent à des PME ou à des chercheurs de travailler. Non, nous on veut plus donner l'accès à des données sensibles du ministère ou des données qu'on a achetées et permettre à des partenaires, alors plutôt de confiance. J'ai pas forcément envie de donner ces données-là à Google et Amazon. Ils n'ont pas besoin de moi pour les avoir. Ils ont qu'à demander au gouvernement américain s'ils veulent en avoir pareil. Donc c'est plutôt à des acteurs de confiance pour faire quelque part émerger des produits nationaux ou faire évoluer les produits de nos PME, les travaux de nos chercheurs, pour quelque part raccourcir ce cercle entre l'idée qu'on peut travailler avec vous, et puis ce produit que le ComCyber a besoin d'utiliser. Aujourd'hui, c'est vraiment cet axe-là qu'on a besoin de faire progresser, travailler avec les grands industriels de la défense plus rapidement et tout ça. Je dirais que ça, c'est plus une logique contractuelle sur laquelle on travaille. Notre défi, c'est vraiment l'intégration des PME. Et puis, je dirais, sans que ces PME ne se fassent avaler par des grands industriels de l'armement. On a eu quelques retours, malheureusement, sur les études amont Artemis, hein, qu'on a lancées, où quelques PME avaient été sollicitées. On leur disait, quasiment, en fait, faites l'épreuve de concept gratuitement pour nous. Vous aurez peut-être un jour la chance de travailler avec la DGA. C'est pas comme ça qu'on envisage la coopération avec les PME. Je pense que Jérôme en reparlera un petit peu tout à l'heure.
Oui, justement, Jérôme, on peut dire qu'on a effectivement besoin de tout le monde dans l'écosystème, la recherche, des industries spécialisées, des grands maîtres d'œuvre, mais aussi des PME. Comment cela se passe-t-il en pratique? Comment cela devrait-il s'améliorer?
Alors, oui, on a besoin. Je repartirai déjà du dernier exposé là, sur l'attaque par canaux auxiliaires, parce qu'en fait, c'était le très bon exemple. Ils ont dit il nous a fallu des données, il nous a fallu des algorithmes, il nous a fallu des compétences. Et vous avez bien vu, il fallait des compétences à la fois de gens qui connaissaient l'intelligence artificielle et de gens qui connaissaient le métier applicatif, donc en l'occurrence la sécurité informatique. Et en intelligence artificielle, ça va être le cas partout. On va s'attaquer par exemple à des données images, et bien il faut des gens de l'optronique, on va s'attaquer à des données qui viennent des radars, des sonars, etc. Il faut des spécialistes de ces domaines-là. Donc ça, c'est très important, le fait de bien comprendre qu'il va falloir à chaque fois avoir une collaboration entre le métier applicatif et finalement des spécialistes de l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs bien pour cela que les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle qui sont en cours de mise en place, il y en aura 4 à Grenoble, à Nice, à Toulouse et à Paris, eh bien il y a ce mot interdisciplinaire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors ensuite, c'est comment effectivement on organise le cheminement depuis la recherche la plus amont, qui se passe quand même généralement dans des laboratoires. Même si finalement on voit ces dernières années avec les grands GAFA que eux se mettent à faire de la recherche fondamentale et même publient plus ou moins ce qu'ils font en recherche fondamentale. Par exemple, tout ce qui a été fait sur AlphaGo, c'est Google DeepMind qui l'a fait et qui s'est mis à retravailler sur l'apprentissage par renforcement, qui n'était pas tellement pendant un certain nombre d'années une voie extrêmement en vogue. Donc on a besoin de cette recherche qui doit après effectivement aller à la fois dans des acteurs spécialisés, dans des maîtres d'œuvre, et donc il faut arriver à fluidifier. Il faut qu'il y ait des relations saines entre les maîtres d'œuvre et puis donc les acteurs plus spécialisés. On a besoin de maîtres d'œuvre parce qu'on a souvent des grands systèmes, et dans les grands systèmes, vous faites un avion de combat, vous faites une frégate, on a besoin du maître d'œuvre. Par contre, effectivement, il faut des relations équilibrées. Alors, la DGA avait fait un travail il y a déjà quelques années, sous l'impulsion du précédent ministre, d'une charte PME qui avait été signée par le CIDEF et les grands industriels de l'armement, sur les bonnes relations qu'il fallait avoir entre un maître d'œuvre et les sous-traitants. Et donc, je dirais, ça devrait être appliqué. Si c'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à ce que les PME viennent voir directement la DGA pour pour expliquer quelles sont les difficultés. Ensuite, c'est vrai, je reviendrai plutôt sur la notion qu'a abordée Frédéric de passage à l'échelle. C'est vraiment une étape qu'il faut qu'on arrive à travailler, et encore plus particulièrement en France. Il y a une étude assez récente du cabinet Roland Berger qui regarde les différents acteurs européens en intelligence artificielle et qui montre que dans le domaine de la recherche académique, en fait, la France, elle est largement devant en termes, quand on regarde le nombre de chercheurs, de publications, etc. Et puis, dès qu'on regarde comment ça est disséminé l'industrie, là, en fait, on est plutôt autour de la deuxième place avec l'Allemagne, et les Britanniques sont nettement devant. Voilà. Et ça veut dire que ça a plus percolé. Dans les études internationales, ça se voit aussi avec des pays comme le Canada, Israël, où finalement, les pays qui sont en taille plus petits que nous, et où aujourd'hui on considère qu'ils sont à notre niveau, voire légèrement un peu devant nous, parce qu'effectivement, ça a mieux percolé dans le tissu industriel. Voilà. Donc c'est vraiment une étape qu'il faut qu'on arrive à améliorer. Ça passe par des acteurs spécialisés, ça passe aussi par les maîtres d'œuvre. Le mix est à trouver, qui reste encore à trouver.
Frédéric, je reviens à toi, mais vous aussi, mon général. Frédéric, tu as évoqué le projet de Data Lake, là, et ça rentre, si je suis bien informé, dans des projets qui sont plus larges, puisqu'on parle aussi de bug bounty, donc aussi des notions qui sont relativement nouvelles en France, d'innovation d'usage, de tiers-lieu de confiance. Donc ce sont des choses qui sont, à mon sens, innovantes en France et en particulier dans le ministère, sans que tu rentres dans les détails de projets qui sont encore pas forcément publics ou officiels. Malgré tout, c'est quoi l'état d'esprit qu'il y a derrière en termes notamment d'agilité, comme le disait l'amiral Coustillard tout à l'heure. Et quel lien tu fais avec l'Agence d'innovation de la Défense?
Ça fait une grosse question. Ouais. Le ministère des Armées avait déjà initié un premier travail avec le pôle d'excellence cyber, pour essayer de construire autour de la plaque rennaise, alors simplement parce qu'on avait des ressources et nos compétences sont ici, de construire un écosystème et de développer à la fois la formation, la recherche dans le domaine de la cyber. On peut voir que ces deux aspects-là ont plutôt été très, très constructifs, très positifs. On a amplifié, je dirais, nos coopérations avec le monde de la recherche sur les aspects cyber. Il y a des développements de nouveaux labos, donc résultats plutôt très concrets. Côté formation, on voit aussi que le nombre de formations, tous les acteurs ont été largement multipliés. Notre petit regret, c'est toujours sur le développement économique et ce lien qu'on a avec les PME. Donc on veut en effet être capable d'intégrer au profit du Com Cyber des PME qui puissent leur faire des prototypes, qui puissent tester des applications, rentrer plus dans des cycles de développement opérationnel. C'est-à-dire qu'on parle de DevOps partout. Aujourd'hui, côté DG1, on n'est pas vraiment dans cette technique-là, côté armée non plus. Il faut qu'on voit comment on arrive à... On commence, il faut qu'on voit comment on arrive à amplifier ça et puis à mêler la sécurité. Parce qu'il n'y a rien de pire que de foncer sur le numérique, de dire je vais tout ouvrir, et puis à la fin de se dire en fait comment je fais pour sécuriser. Et ça, c'est clair que tous les acteurs qui sont présents connaissent les aspects cyber, et c'est indispensable de penser la sécurité dès le départ. Après, sur l'aspect économique, je vais revenir sur ce qu'a dit Jean, c'est vrai que le constat que l'on voit, c'est qu'on a souvent des PME qui ont un très bon produit, une très grande technicité, qui sont au coude à coude avec des champions américains, champions israéliens, et puis qui décrochent au bout de quelques années, à la fois parce qu'ils ont de la peine à adresser un marché international, parce que nous aussi, on n'arrive pas forcément à acheter dans les temps les produits qui vont, et puis aussi parce que, quelque part, on n'a peut-être pas suffisamment de PME qui sont créées. Donc il y a des réflexions qui sont menées en interminable, qui vont être partagées avec l'ANSI, parce que ça ne peut pas se faire tout seul. On a besoin vraiment d'avoir une coordination nationale sur ces sujets-là et des réflexions sur comment on peut faire pour développer l'offre de PME au niveau national, sachant que l'administration a aujourd'hui un potentiel d'experts très très fort, très très important, et que si on regarde ce qui se passe dans des pays comme les États-Unis ou Israël, on voit que l'innovation vient aussi des experts de l'administration qui passent ensuite dans le privé pour monter ces boîtes. Comment faire ça? Comment réussir à susciter ça? Est-ce que c'est le modèle qui nous convient? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais c'est un sujet sur lequel on doit travailler à la fois en interne Minerme et bien sûr avec l'ANSSI.
En général.
Ouais. Ouais, donc vous l'avez entendu, hein, le ComCyber est un client exigeant parce que justement cette implication dans les opérations impose d'avoir des outils performants et en effet, comme je le disais tout à l'heure, dans le cyberespace, il faut des outils qui collent aux spécificités de cet espace et donc il faut pouvoir réagir rapidement, s'adapter. Un client exigeant qui a besoin de ces outils, mais aussi, comme l'évoquait Frédéric, en dépit des efforts importants qui sont faits en matière de ressources humaines supplémentaires, on a besoin de compenser justement le domaine très vaste du problème. Donc pour nous, le défi RH, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, très important. On parlait un petit peu tout à l'heure justement de formation, enfin de recherche qui élimine un certain nombre de choses. Donc on est vraiment au cœur de cela et c'est pour ça d'ailleurs que le commandant de la cyberdéfense a récupéré ce qu'on appelle la commission d'adaptation de la formation dans le domaine cyber pour le ministère des armées pour pouvoir justement avoir une vision de tout ce qui se fait, pouvoir coordonner l'ensemble et donc impulser des orientations dans tel ou tel domaine, renforcer telle formation sur tel domaine et ainsi de suite. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout développer des capacités opérationnelles. Hein, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais ces capacités opérationnelles s'appuient sur des capacités techniques. Et c'est pour ça que, de plus en plus, nous sommes justement partie prenante au développement qui peut avoir lieu, DevOps et ainsi de suite, et au sein de nos entités opérationnelles ou technico-opérationnelle, hein, à différence de celle de la DGA qu'on peut dire plus technique, donc le CALID, je vais le qualifier par exemple de technico-opérationnel, eh bien on a besoin d'avancer, on a besoin d'avoir des prototypes, des preuves de concept, en liaison justement avec la DGA, en liaison avec un certain nombre d'autres acteurs et en liaison avec un certain nombre d'industriels qui vont apporter, alors des grands groupes ou des PME, qui vont nous apporter à un moment ou un autre justement une technologie très en pointe qu'il faut valider dans son emploi opérationnel et aussi une capacité d'intégrer dans le cadre de programmes plus vastes ou de plateformes plus vastes l'ensemble de ces outils. Donc nous vraiment on est vraiment très très à l'écoute, très très exigeant sur tous ces développements et qui paraissent en fait très très prometteurs.
On peut souligner aussi, mon général, et vous en parlerez certainement bien mieux que moi, que le ComCyber monte en puissance également sur la plaque rennaise. Alors Pierre-Arnaud Borrelli, le colonel Borrelli me corrigera si je dis des bêtises, mais son équipe compte quelques dizaines de personnes, moins d'une centaine, et l'objectif c'est de monter à quasiment 1000, je crois, à l'issue de la LPM.
Alors, en effet, on va progresser par étapes. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir recruter, de pouvoir fidéliser et de pouvoir être stationné dans un écosystème qui permet justement d'avoir des écoles de formation, qui permet de passer du monde du ministère des Armées au monde privé ou d'autres administrations. Et en effet, à Rennes, on a cette capacité. Et aujourd'hui, le ComCyber donc, est en phase de monter en puissance. Avant, c'était une petite équipe. Hein. L'amiral Coustillère était à la tête de cette petite équipe qui a pris de l'ampleur, qui a défriché énormément dans ce domaine, notamment des opérations. Et avec la création du commandement de la cyberdéfense depuis septembre 2017... Alors, mais c'est le décret de création, mais en fait, dans son fonctionnement d'aujourd'hui, avec sa structuration en divers pôles, un pôle opération, un pôle ressources développement, un pôle stratégie innovation, il fonctionne donc depuis septembre 2017, mais en effet, les principes avaient été posés auparavant. Et bien, donc, il a grossi à Ballard, à Paris. Il s'oriente vers une vision plus stratégique et opérationnel, un centre de commandement et de contrôle, et en effet l'ensemble des autres unités des acteurs qui sont un petit peu essaimés au sein du ministère des Armées, et bien la volonté c'est en effet de les regrouper de façon à pouvoir mieux les coordonner, mieux fixer un travail collectif, puisque à l'ère de l'hyperconnexion, on ne peut pas, en effet, et Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, on ne peut pas avoir des silos capacitaires, on ne peut pas avoir des silos dans des domaines d'opération trop marqués. Donc il faut qu'on ait, en effet, cette vision Et c'est l'occasion donc de regrouper, de consolider en effet les structures qui existent à Rennes. Et typiquement, donc on va y avoir des aménagements et des nouveaux bâtiments, notamment pour le Calide. Mais on va regrouper aussi notre centre audit en SSI, qui va venir conforter justement ces structures du Com Cyber au niveau de Rennes. Et on a même, alors, pour ceux qui savent, il y a une bascule organique d'un certain nombre d'entités qui étaient à la DIRESI qui ont basculé Com Cyber. Tout ça pour renforcer la capacité et l'efficacité opérationnelle du Com Cyber. Et l'objectif, c'est aussi de faire évoluer ces métiers. On voit bien le métier du Cali, toute cette expertise en lutte informatique défensive, comment elle évolue. En matière aussi d'audit SSI, là, elle évolue. La nouvelle vision de ce qu'est l'homologation. Et puis là, évidemment, sous la coupe des travaux que fait l'ANSSI, pour vraiment être dans une vision, un peu un nouveau métier. Non pas une sorte de checklist un petit peu rébarbative, mais une vraie volonté de maîtriser, de connaître son système, d'identifier les vulnérabilités et après d'essayer de les résoudre, bien évidemment, et les vulnérabilités résiduelles, de les accepter, d'accepter le risque, parce qu'on ne peut pas tout couvrir, et après il faut être en mesure d'avancer. Donc tout ça, en effet, c'est dans cette grande dynamique, et une grande partie, en effet, des effectifs que l'on va avoir supplémentaires dans le cadre de la programmation militaire seront positionnés à Rennes, qui a en effet tout ce qu'il faut pour accueillir ces capacités.
Merci, mon général. Guillaume, alors je vais un peu vite sur le balayage des sujets, mais c'est aussi pour qu'on puisse garder du temps pour les questions avec la salle. Guillaume, je voudrais aussi qu'on prenne un petit peu de recul ou de mise en perspective. Et donc, j'aurais une double question pour toi. D'abord, quelle est, de ton point de vue, l'approche européenne sur l'ensemble de ces sujets, d'une part. Et d'autre part, même si c'est un peu provocateur de ma part, mais tant pis, donc il y a eu l'appel de Paris là tout récemment, donc sur la cybersécurité ou la sécurité dans le cyberespace plutôt. Et certains éditorialistes ont écrit que c'était un nouveau coup d'épée dans l'eau. Alors évidemment, ce ne sera pas du tout l'approche française que nous aurons sur le sujet. Voilà, sur ces deux éléments, Guillaume, quelques éléments de, je dirais, géostratégie.
Je commence par la deuxième, ouais, qui met en perspective la première. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est un monde dans lequel beaucoup d'États font à peu près n'importe quoi, et pas que des ennemis, hein, parmi nos alliés aussi, probablement. On observe une situation géostratégique qui se tend de manière extrêmement rapide et avec des mots échangés, bon, parfois plus que des mots, qui seraient totalement intolérables dans le monde physique conventionnel. Mais dans le cyber, dans le numérique, c'est différent, c'est éthéré, c'est pas matériel, donc on peut se permettre des choses. Ça va mal finir, tout ça, c'est une évidence. On observe des acteurs, de grands industriels du numérique, vous avez tous en tête, qui ont un comportement en grande partie encore irresponsable, même s'il y a de vrais progrès. Mais enfin, ça part de très très loin, et le but, c'est quand même de faire un maximum de fric, ce qui est un peu normal, hein, quelque part, il ne faut pas non plus être naïf. On observe des utilisateurs, des entreprises, des entités qui, pour beaucoup d'entre elles, font encore absolument n'importe quoi avec leur numérique et leur sécurité numérique. Et donc, avec tous ces gens qui font n'importe quoi, on va quand même à grands pas vers un chaos généralisé. Donc ça, c'est la vision très, très noire. D'autre côté, il y a pas mal d'acteurs qui se disent qu'il faut impérativement mettre de l'ordre dans tout ça, il faut anticiper ces catastrophes, et puis peut-être simplement qu'il faut déjà commencer à préparer l'étape d'après. Quand les catastrophes inacceptables se seront produites, parce que malheureusement, elles vont probablement se produire, comment est-ce qu'on va faire pour rebondir? Et là, on se pose la question de finalement, quelles sont les responsabilités de ces différents acteurs? Et on est dans des règles du jeu qui ne sont plus tout à fait les règles habituelles, parce que certes, les États ont un rôle majeur à jouer, mais les grands acteurs systémiques privés, notamment, ont également de vraies responsabilités, probablement. Les utilisateurs ont de plus en plus des responsabilités. Et tout l'intérêt de l'appel de Paris, alors on parle de paix dans le cyberespace, de stabilité du cyberespace, en fait, on est déjà en train de poser les premiers jalons de ce que vont être ces responsabilités pour ces différents acteurs. C'est assez... alors, c'est tout sauf du pacifisme idéaliste à cheveux longs. Y a une vraie... Enfin, c'est beaucoup plus solide que ça. Il est évident que ça ne va pas déclencher un changement majeur de la situation assez noire que je viens de décrire, mais on fixe un cap pour sortir du chaos qui va se construire. Donc on est déjà sur l'étape d'après. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller lire cette charte. Et sincèrement, quand on la lit, on n'y voit que des évidences. On devrait n'y voir que des évidences. Alors là, par contre, il y a un peu de naïveté feinte en faisant ça, mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, en gros, la sécurité, c'est quelque chose qui doit faire intégralement partie des produits et des prestations, que ça ne devrait pas être une option payante supplémentaire hors de prix, que le maintien en condition de sécurité, pour prendre un terme très, très minarme, doit être quelque chose de naturellement inscrit dans le développement des produits, sachant que tout ça, ça s'applique à des produits. Ce n'est pas que des produits lourds, hein, c'est également des petits objets connectés, des choses comme ça, et ça pose de vraies questions. On observe aujourd'hui, alors je n'ai pas vérifié les chiffres, mais quand même plus de 300 acteurs, États, entreprises qui ont adhéré à cette charte. Ce qui
370.
C'est qu'un début. Et on observe également des grands États, la Russie, la Chine, les États-Unis, qui n'y ont pas adhéré. Donc c'est assez intéressant quelque part, parce qu'on écrit des évidences, on dit aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec ces évidences? Il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc c'est une sorte de révélateur particulièrement intéressant. Donc ça fait partie des activités qu'il faut qu'on mène collectivement pour qu'à côté du développement de capacités offensives indispensables dans le cyberespace, eh bien, on soit également capable de garantir les conditions d'une forme de stabilité qui seront nécessaires pour le développement sociétal, économique que l'on souhaite tous. Donc ça, on est parti pour longtemps, hein, très probablement, et ça pose des questions qui sont plus des questions techniques, qui vont être des questions de droit international, très clairement, des questions de normes de comportement, qui vont être dures à instruire, mais qui vont être absolument indispensables. Et quand on en parle un petit peu avec les grands États, et pas uniquement nos alliés, eh bien, ça perturbe. Ça perturbe et ça fait réfléchir. Je pense qu'on va, notamment avec, évidemment, en pilote nos diplomates, ça va continuer à donner pas mal de grains à moudre. Face à ça, la réaction à court moyen terme, il y a une réaction nationale qui n'est pas nouvelle en France, qui est appuyée par les exécutifs successifs, qui donnent les moyens pour le faire. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On en a parlé, c'est des questions de souveraineté nationale, ça ne fait aucun doute. On a toute une structuration de notre écosystème, public, privé. Dans la table ronde où on était tout à l'heure, on parlait du rôle des régions également. Chacun a un rôle important à jouer au niveau national. Dans certains secteurs, ça trouve ses limites. Ça trouve ses limites. Il y a eu des échecs retentissants. Quand on cherche à faire des clouds souverains à l'échelle nationale, en utilisant des méthodes classiques d'aide à certaines filières industrielles, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est... Et a posteriori, c'est facile de dire que c'était logique que ça n'allait pas marcher. Bon, je ne veux pas jeter la pierre parce que à l'époque, c'est peut-être probablement pas aussi simple. Donc, il y a des sujets qui doivent être portés impérativement à une échelle supérieure. Et pour nous, finalement, la plaque, l'écosystème naturel, l'écosystème de là où on a un droit commun, là où on a des valeurs communes, là où on aura demain de plus en plus, je l'espère, des acteurs industriels communs, c'est l'échelle européenne. Raison pour laquelle il est absolument indispensable de travailler non seulement à l'échelle nationale, d'assumer le fait qu'il y a une partie de tout ça qui doit rester à l'échelle nationale parce qu'on parle de souveraineté nationale, et ce n'est pas un gros mot, mais il y a également toute une partie qui doit être développée à l'échelle européenne, parce que si chaque État membre y va de ses grandes idées, ça ne marchera pas, parce que économiquement, si on n'a que des acteurs forts à l'échelle nationale, ça ne marchera pas. Et globalement, on sait très bien que si au niveau européen, on a des acteurs faibles, des acteurs plus forts, eh bien, ça va nous coûter cher, globalement. Il y a des exemples triviaux autour de ça. Pensez le plus simple, c'est celui de l'énergie électrique, notamment. On sait très bien que si on se contente d'être vertueux chez nous et qu'on laisse faire n'importe quoi dans les autres pays ou dans d'autres pays, eh bien, quand il y aura une panne, quand il y aura un blackout, ça va nous concerner également parce qu'on n'est absolument pas résilient seul à l'échelle européenne. Mais ça peut s'appliquer dans énormément de choses. Donc on travaille beaucoup avec la Commission européenne, on travaille sur le développement de normes européennes, de droits européens autour de ces questions-là. On l'inspire parfois, la directive NIS sur la sécurité des réseaux, qui nous permet d'identifier à l'échelle européenne des opérateurs critiques, est directement inspirée de ce qu'on a fait en France avec les opérateurs d'importance vitale. Il y a des questions autour de l'identité, où là, c'est, à l'inverse, c'est l'Europe qui nous inspire et qui nous force à bouger avec des choses comme le règlement EIDAS. Il y a des sujets très complexes, très techniques, comme la certification, qui sont actuellement en cours de négociation finale autour d'un cyberacte qui portera justement cette idée d'une certification européenne. Il sera un framework capable d'inclure plein de cas d'usage. Et là, c'est pareil, on ne va pas commencer à certifier de manière cyber les voitures à l'échelle nationale. Ça n'a absolument aucun sens. Tout ça ne peut fonctionner qu'à l'échelle européenne. Raison pour laquelle il est absolument indispensable de traiter ces différents niveaux, notamment nationaux et européens, parce que c'est extrêmement complémentaire. Et comme je le disais également dans la table ronde tout à l'heure, ceux qui cherchent à opposer le niveau européen au niveau national, ce sont nos ennemis en général.
Merci Guillaume, c'est extrêmement intéressant. Et je signale d'ailleurs au passage que le pôle d'excellence cyber fait partie des signataires qui soutiennent l'appel de Paris. Il nous reste quelques minutes pour poser des questions, donc profitez-en, puisque nous avons effectivement la chance d'avoir une table ronde avec un panel assez exceptionnel. Donc profitez-en, c'est le bon moment. Il y a les hôtes ou hôtesses qui, donc là en l'occurrence ce sont des hôtes aujourd'hui, donc très bien, qui sont avec les micros. Oui, monsieur.
Oui, bonjour, merci pour cette présentation très intéressante et malgré tout rassurante par certains côtés. Est-ce qu'il est prévu quelque chose sur une souveraineté matérielle informatique type GPU, TPU, qui sont actuellement hors Europe ?
Guillaume,
j'ai fait une réponse que certains ont peut-être déjà entendue, mais l'approche qui consiste à dire, ben voilà, je veux être souverain, donc je vais faire mes microprocesseurs, je vais faire mes routeurs, je vais faire mes ordinateurs, je vais faire mes réseaux, et puis si cette logique, elle est forcément biaisée. Et puis, si on la pousse jusqu'au bout, ça veut dire que pour faire nos puces électroniques, on va aller prendre le sable ou la silice sur les plages de Bretagne pour être sûr que, voilà, c'est bien à nous, c'est bien souverain. Donc, je caricature volontairement. On sait très bien que cette voie, dès qu'elle est caricaturée et qu'elle est poussée à l'extrême, c'est pas une bonne voie. Ma conviction, qui est totalement issue finalement de ce que j'ai appris à la DGA, c'est que il faut être capable de maîtriser deux choses. La première chose qu'il faut être capable de maîtriser, c'est les architectures, c'est les systèmes. Si vous ne maîtrisez pas vos architectures, de toute manière, tout ça est vain et vous êtes condamné à devenir un consommateur. Il y a des tas de gens que ça arrangera d'ailleurs. Et ça, dans le domaine de l'armement, comme dans plein d'autres domaines. L'autre chose, c'est qu'une fois qu'on maîtrise les architectures, on est capable de faire une analyse, un raffinement par briques élémentaires, hein, des choses très classiques. Et on peut faire, si on fait rentrer dans l'équation les contraintes notamment de sécurité, eh bien, on va identifier des briques qui seront des briques souveraines au sens vraiment très dur du terme. L'exemple peut-être typique, c'est la crypto. Hein, la crypto gouvernementale qui est faite pas loin d'ici, qui est évaluée par l'ANSSI. Tout ça est vraiment fait dans un tout petit monde avec très peu de personnes. Mais on peut se le permettre, on peut se l'offrir, et c'est ce qui nous permet une souveraineté au sens maximal du terme. Et puis, à côté de ça, il va y avoir des briques, des composants qui vont être faits par des industriels de confiance. Je ne rentre pas sur la définition légale de ce que c'est qu'un industriel de confiance. Ce n'est pas facile à faire. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et puis, il y a d'autres briques qu'on va pouvoir prendre sur étagères, étagères open source typiquement, qui sont des sources intéressantes, très intéressantes, d'éléments que l'on peut intégrer, y compris dans des systèmes extrêmement sensibles. Et puis, il y a des briques qu'on peut prendre n'importe où, parce que finalement, leur sensibilité, elle n'est pas essentielle. Ce qu'il faut comprendre autour de ça, c'est il faut renoncer à l'idée simpliste que j'entends trop souvent encore, qui est de dire la sécurité d'un système, c'est la sécurité du maillon le plus faible. Non, heureusement que ce n'est pas ça, parce qu'on ne pourrait rien faire de sûr. La sécurité d'un système, elle est directement liée à son architecture et au choix, ensuite, au raffinement que l'on a au niveau des différentes briques. Et la souveraineté au niveau national, elle n'a de sens, elle ne prend un sens à la fois dans sa réalisation et au niveau économique que si on est capable de mettre ça en œuvre. Alors, dans le domaine de l'armement, je pense qu'on sait encore le faire. Il y a certains secteurs dans lesquels on sait encore le faire. Il faut bien reconnaître qu'il y a d'autres secteurs, pour ne pas le citer, le secteur des télécoms, par exemple, où là, la question se pose avec beaucoup plus... plus de sensibilité, parce qu'évidemment, notre capacité à faire les briques sensibles, a été fortement remise en question. À l'échelle nationale, ça ne fait aucun doute. À l'échelle européenne, on peut parfois s'interroger. Et donc là, toute la question, c'est est-ce qu'on va être capable d'aller jusqu'au bout de cette logique de maîtrise suffisante pour ne pas être uniquement un consommateur des futures technologies développées par d'autres ?
Jérôme, un petit complément.
Oui, un petit complément sur le fait que des fois sur des technologies un peu émergentes et à partir du moment où ça reste dual, hein, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Guillaume, on peut faire des investissements. C'est ce qui a été fait sur Calray, qui a une technologie de processeur performant avec un coût énergétique très limité, avec des applications dans l'automobile. Évidemment, on comprend bien des applications dans tout ce qui est équipement embarqué pour nous. Et donc, on définvest. Qui a été créé par le ministère intervient, mais aux côtés d'industriels comme Renault, Valeo, etc. Donc on n'intervient pas tout seul. Et un dernier point, faut voir que même un pays comme les États-Unis, la souveraineté, elle est des fois partagée. Hein. Il ne faut pas oublier que Nvidia, s'il est totalement faiblesse, il a toutes les capacités de conception et de prototypage, mais en fait, il n'a aucune usine. Toutes ses usines, elles sont en Inde. Donc voilà, c'est des fois plus compliqué que ce qu'on pourrait croire par rapport à ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans.
D'autres questions dans la salle ? Alors, le temps que les mains se lèvent, j'en profite aussi pour faire une page de pub, puisque aujourd'hui, entre 11h et 14h, sur l'espace exposition, là au niveau zéro, vous avez le dessinateur Clément Bory, qui est donc l'auteur de la BD Cyberfatale, que je vous recommande fortement, parce que c'est assez drôle, c'est même franchement loufoque, donc qui dédicace sa BD. Voilà, donc je vous la recommande, et je vous ferai un petit dessin en dédicace. Donc, bref. Donc, y a-t-il une question? Oui, monsieur.
Je précise quand même que l'amiral Dupéré, c'est pas moi. Hein. Et c'est pas nous, c'est pas moi non plus. Hein.
Bonjour, je vous remercie de votre présentation qui je rapporte quelque chose vraiment de très important à ces trois jours que nous avons suivis. J'aurais une question pour vous, mon général, concernant l'emploi de la réserve de cyberdéfense dans le cadre de la consolidation que vous avez décrite, les dynamiques nouvelles. Comment vous le situez et quelle cadence vous voulez donner à ce réemploi de la réserve?
Alors justement, cette réserve, elle a évolué. On était parti d'une réserve citoyenne pour le grand soir, on va dire, dans cette optique, les forces armées, et puis un peu élargie aussi avec l'ANSSI et puis la DGGN, enfin la Gendarmerie nationale, sur voilà, il y aura peut-être un grand soir avec des attaques massives, et on a besoin de regrouper à ce moment-là un certain nombre de personnes capables de pouvoir rétablir des systèmes qui participent un peu à la résilience de l'État. Et en fait, on s'est aperçu déjà qu'il fallait quand même recruter beaucoup de réservistes, et puis que finalement, on attendait le grand soir, on s'entraînait, on réfléchissait, et puis on s'était dit, mais si un grand soir, chacun va travailler pour sa propre entreprise, sa propre institution, ses propres états-majors, et que finalement, peut-être que ces ressources ne seraient pas disponibles. Donc d'une réserve, on va dire, pour une grande attaque, on en est venu plutôt à se dire, tiens, on va plutôt faire une réserve d'emploi. Et là, je fais la distinction entre les réservistes opérationnels et les réservistes citoyens, avec la particularité, en effet, de cette réserve citoyenne du ministère des Armées et aussi donc en liaison avec l'ANSSI et la gendarmerie. Les réservistes opérationnels, justement, c'est identifier des postes dans des unités opérationnelles qui travaillent au quotidien dans la lutte informatique défensive, par exemple, comme au Calide, et de faire en sorte que ces réservistes puissent participer pleinement en fonction de leur niveau de compétence, en fonction des compétences qu'ils pourraient acquérir au cours de ces périodes ou de formations spécifiques, donc travailler pleinement, puisque ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, la posture de cyberdéfense, c'est une posture permanente. On a un centre d'opération, un Calide, qui ont vocation collectivement à travailler H24, 7 jours sur 7, par rapport à ce qui se passe dans le monde, sur l'ensemble des réseaux. Et donc, on a besoin d'avoir au quotidien des unités suffisamment fortes et donc renforcées par des réservistes opérationnels pour pouvoir assurer cela. Et donc, l'objectif, en effet, c'est d'essayer de monter à plusieurs centaines de ce type de réservistes. Et parallèlement à ça, donc, des réservistes citoyens qui, eux, sont à la fois justement un petit peu pour ce lien armée-nation dans le domaine de la cyber, pour rayonner un petit peu, pour faire valoir ce que l'on fait au sein du ministère des Armées et ce dont on a besoin, et pour nous apporter aussi de la compétence technique, technologique, mais aussi géopolitique ou dans d'autres domaines, un peu le sciences cognitives et ainsi de suite. Donc là, on était parti sur des réservistes citoyens de l'ordre de 4000, et en fait, on va réduire, et là aussi, pareil, on va se fixer dans un premier temps des échéances, enfin des cibles à peu près à 400, et de voir ce que l'on peut faire. Donc voilà, on a fort du retour d'expérience de l'ensemble des types de réservistes et de leur propre vécu, on a réorienté cette réserve avec véritablement ce souci qu'elle soit opératoire, qu'elle soit une réserve d'emploi. Et donc, on a identifié aussi un maillage régional avec un certain nombre de représentants du ministère des Armées ou, dans le cadre justement de cette réserve, j'allais dire, élargie avec l'ANSSI et la gendarmerie, d'autres points de contact pour pouvoir justement faire vivre cela en local avec justement un certain nombre de panels de missions qui peuvent être faites.
Merci, mon général. Une toute dernière question, le cas échéant, si quelqu'un a une question. Non, pas de regret, pas de frustration. Oui, madame. Question courte, s'il vous plaît.
Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. J'ai une question. En fait, on voit pour le cas des États-Unis qu'il y a beaucoup de manifestations, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. L'armée essaie de financer des compétitions pour les armes, pour la cybersécurité. Et je me demande si vous avez aussi des choses prévues pour ça, pour aider la recherche en général. C'est tout.
Frédéric, tu veux répondre? Ou Jérôme?
Oui, alors effectivement, on a. Alors, c'est quand même pas quelque chose de nouveau. On travaille avec les grands organismes de recherche depuis très longtemps. On a, dans le domaine de l'intelligence artificielle, un accord cadre avec l'INRIA. Et donc, on travaille depuis de nombreuses années avec l'INRIA. Il y a aussi l'idée de mettre en place des défis. Il y a des choses qui seront annoncées dans pas très longtemps. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y en a. Alors, si on revient sur les suites du plan Villani, il y en a deux qui ont été lancés, un sur la santé et un qui est plus lié à l'explicabilité des algorithmes. Et nous aussi, on va avoir cette démarche-là qui rejoindra aussi la question des lacs de données et de la capacité, je dirais, à mettre en place, ces défis avec des jeux de données, alors soit pour tout le monde, soit des fois dans des zones plus réservées, soit aussi une capacité, après une sélection, de mettre à disposition ces données parce qu'on est sur des choses plus classifiées. Voilà. Donc il y a effectivement cette idée-là.
Juste pour compliquer, pour expliquer, la difficulté qu'on a à la suite, c'est que ce type de défi est assez facile à monter. Et depuis quelques années, en effet, la DARPA a monté des défis sur l'IA et la cybersécurité. Ce qu'ils ont réussi à faire, après, que nous, on a du mal à faire, c'est que le lauréat de ce défi-là a réussi à avoir des financements, monter sa boîte et vendre directement au ministère, au DOD américain. Là où nous, cet enchaînement entre le défi, l'acquisition, on a encore un travail à faire pour réussir à rendre ça un peu plus automatique. Donc c'est des réflexions qui sont en cours au sein de la DGA et l'Agence d'innovation de défense a vraiment ça comme objectif. Mais c'est pas tant dans le défi que dans la personne qui a gagné, c'est bien qu'elle puisse directement vendre son produit, qu'on puisse directement acheter son produit sans avoir à la remettre en concurrence dans le cadre de marché public.
Merci Frédéric. Amiral, mon général, messieurs, merci infiniment pour votre participation à cette table ronde. On peut effectivement vous applaudir chaleureusement. Je tiens, tu veux pas dire un mot, Benoît? Bon, je tiens à ce qu'on remercie et qu'on applaudisse aussi très très chaleureusement Benoît Martin, qui est le grand organisateur de César. Bravo Benoît, une très belle édition. Et je pense que je peux dire en ton nom, rendez-vous l'année prochaine pour la 26e édition de César. Merci.